20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. La Vanita del Mondo, ainsi s'intitule le nouvel album de Philippe Jaroussky, sorti aujourd'hui même chez Erato. Enregistré en juin dernier à la sortie du confinement du printemps, cet album dédié à l'oratorio italien résonne avec d'autant plus de force et d'émotion en ces temps troublés, soulignant ainsi à travers des pages bouleversantes la fragilité de l'existence. Philippe Jaroussky sera à cette occasion notre invité ce soir. Il nous parlera de ces pages, de ces oratorios italiens, mais également de ses nouvelles perspectives en tant que chef d'orchestre. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. La fin d'une aventure de presque 35 ans pour le quatuor Manfred, qui vient d'annoncer ses adieux à la scène. Une page se tourne. « Merci à tous », ont écrit ses musiciens, remerciant ainsi tous ceux, artistes, publics ou encore mécènes, qui les ont accompagnés tout au long de leur carrière et promettant de continuer à transmettre aux plus jeunes. Nous sommes certains que la magie du quatuor à cordes, servie par d'autres mains, continuera à enchanter et ne s'éteindra pas, nous disent-ils. Bien qu'ayant réussi à maintenir la production d'Hippolyte et Arissi à huis clos pour une captation, l'opéra comique a dû renoncer à la reprise de Fantasio d'Offenbach prévue pour le mois de décembre. L'établissement ne rouvrira donc ses portes au public qu'en janvier avec à l'affiche Titon et l'Aurore de Mondonville sous la direction de William Christie. L'Orchestre National de Lille poursuit sa saison, mais en ligne, via son auditorium virtuel, l'Audito 2.0, à savoir sa chaîne YouTube. Prochain rendez-vous samedi à 20h, un concert dirigé par Jan Willem de Vrinde, premier chef invité de l'orchestre, concert entièrement dédié à Beethoven, avec l'ouverture Léonore III et la 4e symphonie.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Radio Classique accompagne également le spectacle vivant en ce nouveau confinement. Plusieurs captations aux Invalides, à la Philharmonie de Paris, à Lyon, Toulouse ou encore Montpellier sont en effet planifiées. Ainsi pourrez-vous retrouver vos orchestres préférés et des artistes prestigieux en concert, concert donné à huis clos et retransmis sur notre antenne en novembre et en décembre. Rendez-vous chaque week-end, les samedis et dimanches à 21h. Alors ce samedi, c'est un concert donné en public à Monte Carlo qui sera au programme, un concert exceptionnel capté le 24 octobre dernier qui marquait les retrouvailles sur scène de Martha Argerich et Charles Dutoit. Charles Dutoit placé à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et ils ont à cette occasion véritablement soulevé le public dans un brillant troisième concerto de Prokofiev. Et puis dimanche, c'est un récital du pianiste Jean-Éflam Bavouzé que nous vous inviterons à revivre. Récital donné en juillet 2019 au Festival de Verbier. Jean-Éflam Bavouzé avait joué Schumann, Ravel, Prokofiev, mais aussi Haydn, la 59e sonate de Haydn, qu'il sert avec tant d'élégance et de fraîcheur.
Thank you.
le final de la 59e sonate pour piano de Haydn sous les doigts de Jean-Efflam Bavouzé. Jean-Efflam Bavouzé qui avait donc inscrit cette sonate au programme de son récital donné au Festival de Verbier, récital que vous pourrez revivre dimanche à 21h sur Radio Classique.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Philippe Jarouski est donc notre invité ce soir. Philippe Jarouski qui est passé nous voir à la radio il y a quelques jours déjà, juste avant l'annonce du nouveau confinement et alors qu'il s'apprêtait à partir en tournée avec l'ensemble Arta Cercé, tournée qui a donc été annulée. Heureusement, il y a le disque et donc un nouvel album avec ses complices de l'ensemble Arta Cercé, dédié à l'oratorio italien. Un album enregistré en juin dernier à l'issue du premier confinement. Un enregistrement que Philippe Jarouski a vécu comme une libération. C'est ce qu'il nous raconte ce soir.
Oui, c'était un petit miracle. D'ailleurs, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas trop si on allait pouvoir l'organiser. Ça a été très très compliqué. J'ai des musiciens qui ne pouvaient toujours pas venir en France. Et donc, c'était vraiment une libération dans le sens où la plupart de mes musiciens et moi-même, on n'avait pas fait de musique, en tout cas, on n'avait pas joué ensemble depuis plusieurs mois. J'ai travaillé ce disque tout seul en chantant pendant plusieurs mois. Alors pour le coup, j'ai eu beaucoup de temps de le préparer. C'est plus de temps que d'habitude. Mais effectivement, j'avais pas pu le préparer avec mes musiciens. On l'a fait, bien entendu, pendant, sous les micros. Et ça a été une libération, évidemment, et un grand plaisir.
Alors cet album s'intitule La Vanità del Mondo, c'est un titre qui a une résonance particulière aujourd'hui alors que le monde est si ébranlé et que notre condition humaine semble si fragile.
Oui, alors c'est un peu un hasard puisque ce titre provient d'un désert du disque, d'un oratorio de Pietro Torri qui s'appelle La Vanità del Mondo. Évidemment, souvent on cherche effectivement une pièce et c'est devenu assez logique, et particulièrement en juin, de l'appeler comme cela. D'abord parce que je trouve que ça sonne très bien et que, évidemment, cette époque actuelle de plus en plus remet en question nos modes de vie, remet en question effectivement une forme de narcissisme, d'égoïsme et d'une prise de conscience aussi qu'on va quand même sur certains sujets droit dans le mur et qu'effectivement, cette vanité du monde, elle est là. Et je trouve que c'était intéressant parce que on se rend compte que finalement des œuvres qui ont été écrites plus de 300 ans avant parlent déjà un petit peu de tout cela. Et c'était pour moi l'occasion de connecter finalement ce qui se passe dans notre monde contemporain avec ce monde baroque qui n'est finalement peut-être pas si éloigné de nous.
Di gioia e torrenti, di gioia e torrenti, di gioia e torrenti.
La Vanita del Mondo, c'est le titre de votre album, Philippe Jarouski. C'est le titre d'un oratorio de Pietro Tori, dont un air figure au programme. Pietro Tori, l'un de ses compositeurs un peu oubliés, qui s'est illustré notamment dans le genre de l'oratorio. Alors, l'oratorio, finalement, c'est un petit peu, si on résume, comme un opéra, mais avec un sujet biblique. Est-ce que c'est ça, une définition de l'oratorio?
Oui, et souvent, d'ailleurs, un opéra un petit peu plus court, là, enfin, à part les grandes œuvres, fresques de Handel, notamment les oratorios de Handel. Mais c'est vrai que souvent, un oratorio italien, il est à peu près de 2 heures. L'intrigue, elle est recentrée sur un peu moins de personnages. On a entre 3 et 5, voire 6 personnages. C'est évidemment peut-être plus statique qu'un opéra. On peut dire que c'est une action sacrée, mais avec une introspection, des personnages peut-être plus grande, une spiritualité. Bien entendu, derrière les destins de certains personnages d'opéra, on peut y trouver une certaine universalité, chez Traviata, chez Carmen, mais effectivement, chez certains personnages bibliques, je pense évidemment à Isaac, le fils d'Abraham, qui apparaît ici, effectivement dans le disque, la première plage du disque, où Isaac dit à son père qu'il peut le sacrifier, il accepte ce sacrifice. Évidemment, on a une universalité, une hauteur d'esprit qui est plus grande. Effectivement, endosser des personnages bibliques, c'est très différent que même interpréter un empereur romain. Donc, notamment dans ce Dix, il y a quelque chose que je trouvais amusant, c'est que je chante Dieu. Alors ça, c'est aussi très drôle. Ça, c'est vraiment typique de l'oratorio italien. Évidemment, en Allemagne, on n'a pas ça, mais on n'hésite pas à mettre la voix de Dieu dans un chanteur.
Et alors d'incarner Dieu?
Alors c'est un Dieu un petit peu, on va dire, un petit peu autoritaire. C'est vraiment un épisode où il est furieux. On a vraiment un Dieu qui punit l'homme de ses péchés.
Voilà, c'est dans un oratorio de Fortunato Kelleri, l'un de ses compositeurs que l'on découvre grâce à vous, Philippe Jarouski. Alors c'est vrai que l'on retrouve dans ce genre de l'oratorio des éléments propres à l'opéra, un côté très dramatique. Il y a des airs contemplatifs, mais il y a des airs héroïques, il y a de la virtuosité également, et il y a en plus cette spiritualité. Est-ce que vous avez l'impression que cette spiritualité, qu'on soit croyant ou non croyant, mais quand on se remet dans la peau de ces personnages bibliques, elle donne une dimension supplémentaire, elle se traduit même d'un point de vue de l'écriture,
oui,
d'une façon particulière?
En fait, moi, quand je chante le répertoire d'oratorio, c'est proche quand même pour moi quand je chante la musique religieuse en latin. C'est-à-dire que j'ai l'impression de devoir chanter en face de quelque chose qui me dépasse, de me mettre dans une forme d'humilité. L'opéra, c'est un monde beaucoup plus excessif. On est jaloux, on a envie on bouillonne intérieurement. Et effectivement, dans l'oratorio, il y a cette spiritualité qui fait prendre une certaine distance, une forme d'humilité. Et puis, je crois aussi, probablement, on disait que on pouvait être croyant ou pas croyant, mais je pense qu'évidemment, à l'époque, j'arrive à m'imaginer que la plupart des grands compositeurs de cette époque, qui sont dans ce disque, notamment Caldara ou Scarlatti, Handel, croyaient en Dieu. Et que quand il compose justement pour des personnages bibliques ou des histoires sacrées, ils se mettent eux-mêmes dans une forme d'humilité et ils essayent de transcrire cette spiritualité par leur composition, par leur écriture. On a parfaitement ça évidemment dans les grands oratorios de Handel à la fin de sa vie, où il va dépasser tout ce qu'il a pu écrire à l'opéra pour trouver une forme d'épure aussi dans son écriture musicale.
Tout
Handel est l'une des grandes figures de l'oratorio italien. Il est donc tout naturellement au programme de votre album, Philippe Jaroussky, à travers un air très connu, l'air Lascia la spina, qui fait partie de l'oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, et qu'il reprendra ensuite dans son opéra Rinaldo. Il semble cet air, quand on l'écoute dans la version de l'oratorio, il semble quelque part encore plus lancinant, encore plus extatique. Alors est-ce que c'est une question d'interprétation ou est-ce que c'est l'écriture de Handel ?
Oui, il y a des petites différences, notamment justement l'apport du hautbois dans la ritournelle. Il y a quelque chose d'un peu plus archaïque encore, effectivement. Et c'est un air, je pense, qui était très important pour Handel puisqu'il apparaît pour la première fois dans Almira, donc l'opéra qu'il a créé pour Hambourg, où là, il apparaît sous forme de pièce instrumentale, mais je crois qu'effectivement cette épure fait partie de l'idée que l'oratorio doit dépasser effectivement les problématiques humaines. Alors évidemment, en plus là on est dans des allégories, c'est-à-dire qu'effectivement dans l'oratorio on peut dire qu'il y a deux types de personnages. Il y a le personnage biblique, Abraham, même Dieu comme on citait tout à l'heure, Saint Augustin aussi, et puis il y a les personnages allégoriques, et là plusieurs fois apparaît notamment le personnage du plaisir qui nous manque cruellement en ce moment, et on a aussi des personnages qui représentent justement des façons de penser en fait de l'être humain, peut-être aussi parfois les plus grands défauts de l'être humain. Et le lascia la spina colli la rosa, ça veut vraiment dire laisse l'épine et ne cueille que la rose, ne prend que le plaisir finalement. Donc c'est aussi des leçons de vie qui nous sont aussi dispensées par ces textes qui sont aussi souvent merveilleux. On parle souvent de la musique mais on oublie les textes.
Alors il y a Handel, il y a Caldara, il y a ces compositeurs que l'on connaît peu, voire pas du tout, que l'on redécouvre. On écoutait tout à l'heure Pietro Torri, on citait Fortunato Kelleri, qui vous permet de chanter.
Alors
Dieu.
Je vous rassure, avant d'enregistrer ce disque, je ne connaissais pas non plus Fortunato Kelleri, c'est l'avantage aussi.
Mais on s'aperçoit qu'il reste un immense pan de répertoire à redécouvrir, tout un champ de découvertes.
C'est la richesse du baroque, c'est aussi ce qui est très impressionnant chez certains compositeurs, notamment Caldara et Scarlatti, que ça soit dans l'oratorio, l'opéra ou même le monde de la cantate de chambre, il y a encore énormément de choses à enregistrer. Et ce qui est finalement assez impressionnant chez ces compositeurs-là, c'est que dès qu'on ouvre une partition de ces compositeurs-là, on a à peu près la même égalité et la même richesse d'écriture. Chaque air est un petit chef-d'œuvre en soi.
Il y a bien des pépites, bien des trésors dans cet album qui met en avant ce genre de l'oratorio, un genre que l'on redécouvre alors qu'on s'était un peu concentré, en tout cas sur le plan de la découverte, dans le domaine de l'opéra, mais on s'aperçoit que les compositeurs nous ont laissé tout un répertoire d'une richesse incroyable.
Oui, et on voit d'ailleurs même de plus en plus un intérêt des metteurs en scène pour mettre des oratorios sur scène, peut-être parce que cette universalité leur parle. On a vu évidemment des oratorios de Handel, le Messie mis en scène,
récemment,
et puis on a eu le Primo Omicidio de Scarlatti qui a été mis en scène l'année dernière à l'Opéra Garnier, et donc je crois qu'il y a aussi un avenir sur scène pour l'oratorio.
Alors justement, vous citiez le Primo Omicidio de Scarlatti, c'est une œuvre que vous allez diriger, je crois, l'année prochaine, Philippe Jaroussky, avec l'ensemble Arta Cerce. Vous allez la diriger sans la chanter,
oui.
Ce sera une première.
Ça va être un grand vertige, oui, ça sera mes premiers concerts où je dirigerai. D'ailleurs, j'ai engagé deux de mes collègues contre-ténors, Christophe Dumont, qui fera le rôle du bad boy finalement, un petit peu, pour changer de Caïn. Et puis Paul-Antoine Benoz qui avait participé à mon académie et qui, lui, ce coup-ci, lui interprétera le rôle de Dieu. J'ai choisi cet oratorio parce que justement je le trouve très efficace dans le rythme. Et puis les personnages finalement n'ont presque pas besoin de mise en scène puisqu'on a Adam, Ève, Caïn, Abel, Dieu et Lucifer. Mais ça sera effectivement un grand vertige de ne pas faire un son pendant cette soirée.
Voilà, donc c'est un cap important dans votre carrière. Philippe Jarouski, chef d'orchestre, avec en 2021 Il Primo Omicidio de Scarlatti en version de concert, et avec l'année suivante une expérience dans la fosse.
Oui, avec l'opéra Jules César au Théâtre des Champs-Élysées. Je remercie d'ailleurs Michel Franck de sa confiance, parce que évidemment je mesure aussi le travail à fournir malgré mon expérience en tant que chanteur sur la scène, ce qui j'arrive à quantifier la difficulté qui est de maintenir la cohérence entre ce qui se passe effectivement dans la fosse d'orchestre et ce qui se passe sur scène. Je pense que je vais avoir beaucoup de sueur froide.
Alors il y a Philippe Jarouski, le chanteur, Philippe Jarouski, le chef d'orchestre, et puis Philippe Jarouski, le professeur à la scène musicale. Comment s'est passée la rentrée, une rentrée si particulière ?
Déjà, on était très heureux de pouvoir la faire. On a bien entendu respecté les règles sanitaires. On a essayé de faire les cours un petit peu plus éloignés les uns des autres, ce qui n'est pas toujours facile, parce que notamment en chant, on a besoin des fois de faire comprendre assez près. Ça a été une semaine très joyeuse, parce qu'on s'est rendu compte aussi que pour beaucoup de nos jeunes talents, ça a été aussi une année très très éprouvante, où ils n'ont pas pu avoir forcément tous leurs cours au conservatoire, et on les a tous sentis très 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 motivés à absorber tous les conseils qui pouvaient être donnés, et une très grande motivation de rentrer pour cette Académie Beethoven. Et on est très heureux d'ailleurs de terminer l'année Beethoven le 18 décembre avec un concert qui, j'espère, aura lieu à l'auditorium de la scène musicale avec tous ces jeunes talents, et ça sera un concert 100% Beethoven. Pour ce concert, je me suis plongé un peu plus dans les leaders de Beethoven. C'est ça qui est très bien dans cette académie, c'est que ça me fait aussi découvrir beaucoup de répertoires que je ne connais pas non plus.
Alors, il y a déjà des jeunes chanteurs et des jeunes musiciens issus de l'académie qui ont entamé une carrière dont on commence à entendre parler. Et des jeunes chanteurs, des jeunes musiciens qui débutent une carrière dans des conditions assez dramatiques, notamment pour les chanteurs, puisque le monde de l'opéra est véritablement peut-être celui qui est le plus fragilisé en ce moment. Vous avez participé tout récemment à ce concert Unisson à l'Opéra Comique. On a senti une vraie solidarité entre les artistes lyriques, une volonté d'unir ses forces justement pour se battre ensemble, s'entraider, aider les plus fragiles. Et vous avez l'impression que cette solidarité, elle vous aide à tenir et elle porte quelque part ses fruits, vous obtenez...
Je pense qu'elle va porter ses fruits. Je pense qu'il y a peut-être quelque part aussi un réveil du monde de l'opéra. Peut-être cette période difficile a révélé qu'effectivement certains avaient besoin de l'aide des autres. Et c'est vrai que sans cracher sur le monde de l'opéra, je pense que c'est un monde assez compétitif, un monde où on pense surtout à soi au départ et à ce qu'on doit faire sur scène. C'était peut-être une bulle dorée pour certains. Et ce que certains, notamment moi, je l'ai beaucoup réalisé au cours de ces dernières années, notamment avec l'Académie, mais peut-être certains ont réalisé qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile, on va dire, de commencer une carrière de musicien et de chanteur. Ça l'est encore plus, évidemment, avec cette crise, avec cette pandémie, mais ça l'était déjà avant. Et je crois que cette pandémie a été effectivement le révélateur de tous les dysfonctionnements du système. Certains l'ont dit, d'ailleurs, notamment grâce à Unisson, notamment qui s'en est fait le porte-parole, mais de dire qu'il y a des vrais problèmes à l'opéra, qu'on a peur aussi des fois de parler parce qu'on a peur de ne pas être réengagé. Finalement, dans chaque crise, il peut y avoir effectivement des choses bénéfiques qui ressortent. C'était effectivement une très belle soirée de voir ce monde lyrique très solidaire et bien plus pluriel et mélangé que d'habitude.
Merci beaucoup Philippe Jarouski d'être passé.
Merci beaucoup Laure.
Un air tiré de l'oratorio La Decorazione di Giovanni Battista de Bononcini, un nouvel extrait de cet album La Vanità del Mondo de Philippe Jaroussky avec l'ensemble Arta Cersei, sorti aujourd'hui chez Erato. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Très belle soirée et très bon week-end à tous. Soirée qui se